Voici la compagnie des auteurs, comme chaque jour, Didier Pinault, Corinne Amaran, Vanessa Prévost, Eva Lesso, à la réalisation Laurence Millet, et aujourd'hui à la console, Emmanuel Morse-Duncan.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année pour cette première compagnie des auteurs de 2017, une semaine que nous allons passer en compagnie de Colette.
Je crois que, en ce qui me concerne, la vie a pris assez tôt l'habitude de me malmener un peu rudement et, ma foi, au risque de me faire considérer comme un animal passif, je n'ai pas eu grand-chose à faire d'autre qu'à me laisser faire.
S'est-elle vraiment laissée faire dans la vie, Colette ? On peut fort bien en douter de la part de cette femme de caractère. Mais puisque c'est elle qui le dit, eh bien, nous nous demanderons jusqu'à jeudi si elle s'est laissée porter par la vie ou bien si, au contraire, elle a eu à lutter pour gagner sa liberté. Liberté en tant que femme, nous le verrons jeudi avec Julia Kristeva qui viendra nous parler du génie féminin et de la jouissance féminine chez l'auteur du magnifique roman « Chérie ». Liberté de l'écrivain, mercredi, nous nous pencherons sur les grands thèmes des romans de cet écrivain moraliste, ce sera avec Jacques Dupont. Liberté du regard, demain, avec Frédéric Magie qui nous parlera de comment Colette voyait la vie, de son amour pour les bêtes, de sa gourmandise et de toutes les choses qui ont intéressé son œil de mémorialiste, de portraitiste et de journaliste. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour notre émission Portrait, je reçois Gérard Bonal, journaliste, scénariste, écrivain et spécialiste, évidemment, de l'œuvre de Colette, dont il a publié notamment une biographie aux éditions Perrin en 2014. Bienvenue à la compagnie.
Oh, souhaite d'arrêter le temps, souhaite de demeurer encore un peu pareil à toi-même. Ne grandis pas, ne pense pas, ne souffre pas. Souhaite cela si fort qu'un dieu quelque part s'en émeuve et t'exauce.
De la littérature encore.
Pardon, je pose un petit gémissement, mais comme je viens de vous le dire et que je ne me lasserai pas de le répéter, je supporte de plus en plus mal la littérature, quelles que soient ses sources et sa signature.
Ça vous fait rire, Gérard Bonal, bonjour.
Oui, bonjour. Colette a un talent extraordinaire pour faire du passe-passe, quoi, en quelque sorte.
Elle supportait mal la littérature, oui. Y compris la sienne, elle l'a dit également.
Oui, peut-être. Enfin, je ne crois pas du tout que ce soit vrai, mais enfin, disons que c'est une pause.
Ouais. Il faut dire que c'est un écrivain qui n'a peut-être pas choisi d'être écrivain. En tout cas, ça n'était pas évident au départ.
Non, c'était sans doute pas évident. Et si elle n'avait pas été mariée à Henri Gauthier-Villars, dit Willy, qui lui a révélé finalement son talent d'écrivain, et peut-être qu'elle n'aurait jamais écrit. On ne sait pas. On peut se poser la question, on peut se le demander. Ce serait vraiment très dommage pour les lettres françaises. Mais il est vrai que c'est lui qui lui a mis, sinon le pied à l'étrier, du moins la plume à la main, et que à partir de Willy, elle a commencé une carrière d'écrivain qu'elle n'a plus jamais cessé d'exercer.
Alors on va raconter évidemment l'histoire de Willy, mais on peut dire avant cela qu'elle a été mime, auteur dramatique, journaliste, je le disais dans le chapeau, comédienne, critique de théâtre et même marchande de produits de beauté.
Marchande de produits de beauté, oui, effectivement. Mais ça, c'était, on peut penser que c'est lié à son activité au music hall, puisque au music hall, on se maquille, bien sûr, puisqu'on est sur scène. Et il semblerait que c'est là que Colette a appris l'art du maquillage.
Oui, voilà. Mais là, elle avait monté un magasin.
Ah, oui, elle a monté un magasin très sérieux, qui d'ailleurs.
Très moderne.
On voit sur les photos, c'était très joli, rue de Miroménil. Et c'était quelque chose qui n'a pas marché parce qu'à ce moment-là, précisément, sont arrivés les grands cosmétiques américains qui lui ont fait une concurrence, sinon déloyale, du moins insoutenable. Et elle est retournée à l'écritoire.
Ouais. Alors son CV, justement, c'est quand même beaucoup l'écriture. Il paraîtrait, en tout cas c'est un peu ce que vous dites, qu'elle aurait contribué à inventer l'autofiction. C'est pourtant bien avant.
Oui, mais 1928... La naissance du jour. Dans la naissance du jour, l'héroïne s'appelle Colette. Elle se raconte à la première personne. Enfin, une histoire complètement inventée d'ailleurs, mais enfin, peu importe. C'est elle l'héroïne du roman. Elle est au cœur de sa fiction. Et autour d'elle, il y a des personnages tout à fait réels. Elle parle de Francis Carco, elle parle de Jean Cocteau, qui sont ses amis. Et d'ailleurs, quand le livre est avant elle, ça ne s'était jamais fait. Hein. Et d'ailleurs, quand le livre paraît, des critiques aguerries, je pense à André Billy, ont été un peu désarçonnés, ne retrouvaient pas un roman dans ce roman. Et à quoi elle a répondu d'ailleurs, si vous ne trouvez pas le roman, c'est qu'il n'y a pas de roman, effectivement. Une histoire. Et aujourd'hui, je pense que tous les spécialistes sont d'accord là-dessus. Un des inventeurs, on ne dit pas une inventrice, un des inventeurs d'autofiction, c'est réellement Colette.
Mais oui, parce qu'elle faisait ce qu'elle voulait, oui, c'est d'ailleurs le titre de votre biographie.
Oui, elle a continué très longtemps dans les nouvelles des années 30. Elle est toujours au cœur de sa fiction. Par un narcissisme à la puissance 10, bien sûr, mais c'est très moderne, finalement. Oui.
Je veux faire ce que je veux.
Oui,
ça,
oui,
c'est
oui.
Le titre de votre biographie.
Oui, exactement. Alors, c'est une phrase qui vient de Dialogue de Bête. C'est Toby Chien qui raconte qu'il l'a entendu dire sa maîtresse, je veux faire ce que je veux. Et contrairement à ce que Colette disait en début d'émission, si j'ose dire, j'ai eu qu'à me laisser faire. Je crois qu'au contraire, elle ne s'est jamais laissée faire et qu'elle a fait toujours ce qu'elle voulait faire.
C'est donc aussi une menteuse.
Peut-être.
Alors sur le plan personnel, Gérard Bonnal, la vie de Colette, c'est une suite de scandales. À tel point que l'archevêque de Paris a refusé de lui accorder un service mortuaire à l'église Saint-Roch.
Oui,
quand même assez extraordinaire.
Oui, effectivement. Enfin, suite de scandale, disons que ça commence quand elle est à Paris, quand elle arrive à Paris. Jusque-là, puisque nous parlons de biographie, donc elle naît à Saint-Sauveur-en-Puisé, dans l'Yonne. Empuisé, exactement, comme le nom du village l'indique, le 28 janvier 1873, ça sera bientôt son anniversaire de naissance, et elle va passer là ses 18 premières années, disons, sans qu'il y ait d'histoire particulière. Hein. C'est une enfance heureuse.
Une espèce de légende dorée de cette famille heureuse à Saint-Sauveur-en-Puisé.
C'est une famille heureuse avec quand même des difficultés, notamment la ruine de la famille qui va intervenir en 1884, puisque, il faut le préciser aux gens, Colette est la fille d'un deuxième mariage de sa mère, hein, qui a d'abord épousé Monsieur Robineau Duclos à Saint-Sauveur-en-Puisé, dont elle a hérité la maison, et elle épouse ensuite le capitaine Colette, avec qui elle aura deux enfants, Léo, et Colette en 1873.
Le 28 janvier.
Or, il se trouve que en 1884, Juliette, la sœur aînée, née du précédent mariage de Sido, se marie. Et la belle famille demande des comptes de tutelle et demande la dot. Et le capitaine Colette, chargé de la gestion, est incapable de rendre les comptes de tutelle. Il faut donc faire un très gros emprunt au crédit foncier. Et à partir de là, une sorte de ruine, oui, le mot n'est pas trop fort, va se mettre en place. Et vous imaginez le les rumeurs et les clabaudages dans le village qui vont entourer cette ruine peu à peu de ces gens qui sont finalement des étrangers, puisque Sido a passé sa jeunesse en Belgique et le capitaine Colette, quant à lui, était toulonnais.
Alors, ce qui a participé aussi de la ruine de cette famille, c'est la campagne électorale que le père de Colette, alors qu'il était plus que jamais impopulaire, a souhaité mener, Gérard Bonnal.
Oui, bien sûr, le capitaine Colette, c'est un militaire, comme son nom l'indique, qui était capitaine au 1er régiment de Zouave, a une jambe arrachée à la bataille de Melegnano, et donc on lui a donné en compensation la perception de sa sauveur empuisée. C'est-à-dire ainsi qu'il a rencontré celle qui allait devenir sa femme. Le capitaine Colette a pris très tôt sa retraite de percepteur, beaucoup trop tôt d'ailleurs, pour les finances de la famille, en 1880, pour se lancer dans une carrière politique qui a été un fiasco complet, puisque finalement ce qu'il a réussi à avoir, c'est conseiller municipal.
Alors, les parents, c'est le père, vous le dites, mais c'est quand même surtout sa mère, Sido, qui était particulièrement importante. Quel portrait peut-on faire d'elle ?
Écoutez, moi, j'ai publié les lettres de Sido à Colette il y a quelques années, donc j'ai vécu un ou deux ans avec Sido, si j'ose dire. Donc je me suis fait une opinion sur elle. C'est une femme, comment dirais-je, autodidacte, on peut dire, puisqu'elle a passé ses 8 premières années à la campagne.
Un peu comme Colette, hein, finalement.
Oui, finalement. Et ensuite, elle est en Belgique auprès de ses frères, qui étaient journalistes. Ils ne sont pas belges, hein. C'était des gens qui avaient émigré en Belgique. Et auprès de ses frères, elle a rencontré... elle a vécu dans un milieu très cultivé de peintres, de musiciens, de journalistes. Donc, c'est là qu'elle s'est fait une sorte de culture.
Et ça, elle le transmet
elle
à
le
sa
transmet
fille.
À sa fille. Et on voit que cette culture est réelle, parce que dans les lettres à sa fille... Il y a sans arrêt des citations d'opéra, par exemple. Elle parle de peintre. Elle a très bien connu Alfred Stevens. Elle parle de la créatrice d'Adamo Camelia. Donc elle connaît. C'est une vraie culture sentie, éprouvée et non pas dans les livres. Quoi,
et à la fois, c'est un personnage très envahissant pour Colette.
Alors disons que c'est une mère. Je crois que les mères, c'est toujours ou trop ou pas assez. D'après, si on en croit la littérature, toutes les littératures...
Oui, mais seulement dans les livres, sinon dans la vraie vie, c'est parfait.
Oui, c'est parfait dans les vrais. Effectivement. Et Sido, c'est trop, effectivement. Mm. C'est trop, peut-être avec tous ses enfants, d'ailleurs.
Chantage affectif.
Et puis, elle est très... Bon, cela dit, elle est très attentive. Elle s'occupe très bien et beaucoup de ses enfants. Mais disons que dans le cas de Colette, celui qui nous intéresse, elle s'immisce un peu trop dans la vie de sa fille, surtout quand sa fille va avoir quitté le nid maternel.
À tel point que elle devient quelqu'un d'extrêmement marquant dans la carrière littéraire de sa fille Colette, puisqu'elle va devenir un personnage de Colette. Colette va même écrire un livre, Sido ou les points cardinaux.
Oui, mais c'est d'ailleurs Sido, Colette, à un moment, je ne sais plus dans quelle œuvre, parle de, c'est dans une préface à une réédition de Sido précisément. Elle parle de Sido en disant que c'est le personnage principal de toute sa vie. Et elle ne dit pas la personne principale, elle dit le personnage, ce qui veut dire qu'il y a une réinterprétation de sa mère, effectivement. Mais cela dit, bon, cette Sido. La Sido de littérature, qui est une sorte de déesse-mère qui commande aux points cardinaux, à la pluie, à la neige, aux saisons, n'est pas si loin que ça, la vraie Sido, celle qu'on découvre dans les lettres. Elle n'est pas si loin que ça, c'est moins évident sans doute, mais elle a une grande connaissance de la botanique, de la nature, et une véritable intuition des choses. Quand elle parle des jardins, par exemple, c'est toujours, comme on dit, elle sait de quoi elle parle.
Alors, la littérature va de plus en plus se mêler à la vie de Colette, à tel point que fiction et réalité ont tendance chez elle à se confondre. Et c'est un écrivain qui va arriver dans sa vie. Cet écrivain s'appelle Willy et ça deviendra, Gérard Bonnal, son premier mari. Pouvez-vous nous faire d'abord un portrait de cet homme qu'elle rencontre à Châtillon-sur-Loing, où elle est très jeune, hein, et elle a déménagé avec sa famille après la ruine dont vous nous parliez tout à l'heure.
Oui, alors Willy, en fait, s'appelle Henri Gauthier-Villars. Il appartient à la famille des de la librairie scientifique Gauthier-Villars, qui se trouvait 22, je crois, quai des Grands Augustins. Et elle le connaît par un hasard de circonstance. D'ailleurs, on ne sait. En fait, on a une solution, mais on n'est pas tout à fait sûr. Willy, appelons-le Willy maintenant, a eu un enfant hors mariage avec une femme pas encore divorcée. Donc cet enfant est mis en nourrice près de Châtillon, Châtillon-Coligny, Châtillon-sur-Loing à l'époque. Donc cet enfant, son père va le voir, et on dit que c'est en venant le voir qu'il aurait rencontré Colette. Mais il y a aussi une autre version qui dit, le capitaine Colette, qui était un féru de science, a très souvent été à la librairie Gauthier-Villars, accompagné de sa fille, et c'est là que sa fille aurait rencontré Henri Gauthier-Villars, dit Willy.
J'étais fiancée, je me suis fiancée. Monsieur Willy m'a demandé ma main, et quand j'avais 15 ans, et ma foi, 2 ans après, nous étions encore fiancés, comme dans les anciens romans.
Voilà, comme dans les anciens romans, Gérard Bonnal. Oui. C'est l'homme providentiel, finalement, Willy, pour cette jeune fille et même pour la famille dans
oui,
son ensemble.
Oui et non. Enfin, oui, sans doute oui, parce que s'il n'y avait pas eu Willy, cette jeune fille était immariable dans son milieu bourgeois, pas de dot. Donc effectivement, famille ruinée, déclassée, qu'est-ce qu'il pouvait... Elle l'a confié, sur le tard, elle l'a confié à son ami René Hamon. Je serais restée vieille fille, j'aurais été institutrice, disait-elle.
Mais c'est tout le contraire qui va se passer. Elle ne sera absolument pas vieille fille, et même plusieurs fois. Et elle se marie pour la première fois, c'était le 15 mai 1893. Et vous écrivez que rarement noces s'organisèrent sous de plus funestes auspices.
Oui, parce qu'il y a eu d'abord des lettres anonymes qui sont arrivées. Alors on ne sait toujours pas de qui. On peut penser que ça vient de Jean de Saint-Sauveur, mais ce n'est pas du tout avéré. Par ailleurs... on a l'impression que c'est un mariage de deux personnes qui n'étaient pas mariables autrement. Willy était immariable dans son milieu bourgeois parce qu'il avait un enfant déjà. Et donc un père célibataire à la fin du 19e siècle, c'était pas pensé de le marier à une héritière bourgeoise. Et quant à elle, je vous l'ai dit, n'ayant pas de dot, elle était sans doute immariable dans son milieu.
Elle est pourtant très amoureuse de Willy quand même.
Alors elle va devenir très amoureuse de Willy, et elle va rester très amoureuse de Willy, ce qui va expliquer cette espèce de rancœur que toute sa vie elle va éprouver pour Willy.
Et notamment dans Mes apprentissages, voilà, qui est le roman dans lequel elle va raconter son histoire.
Un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre épouvantable, si je peux me permettre.
Pourquoi épouvantable?
Parce que ce qu'elle dit de Willy n'est pas vrai. Elle se venge. De quoi elle se venge? Alors elle se venge, j'avance un petit peu, elle se venge de cet homme qui finalement, lorsqu'ils se sont séparés, ne lui a pas demandé de revenir. Voilà, c'est tout. Elle se venge de ça, et puis d'autres choses financières. Mais Willy n'est pas le méchant homme qu'elle décrit. Et je pense qu'elle n'a pas vraiment à s'en plaindre. Alors il a eu des torts, il l'a trompé, mais comme il le disait lui-même, je l'ai trompé, mais elle me l'a rendu avec usure. Voyez. Mes apprentissages, c'est un livre un règlement de compte.
Et d'ailleurs, c'est des règlements de compte interposés, parce que
oui,
Willy écrit des livres pour se venger de Colette et inversement.
Colette, c'est toujours, je veux dire, n'a jamais laissé les choses en suspens. On peut penser que dans son roman Julie de Carnayan, elle réglait son compte à son second mari Henri de Jouvenel, et dans Mes apprentissages, elle règle définitivement son compte à Willy. Mais j'aime bien cette attitude, si j'ose dire, parce que Colette n'est pas du tout la bonne dame du Palais Royal qu'on a fait à la fin de sa vie. C'est une femme, c'est sulfureux, son œuvre est sulfureuse, et c'est une battante, et je pense qu'aujourd'hui, on peut enfin dire tout ça.
Pourtant, Julie de Carnayan, on lui a beaucoup reproché, ça a gêné jusqu'à sa famille.
Oui, jusqu'à sa famille, oui. Mais d'ailleurs, disons que le modèle du personnage, c'est sans doute son mari, mais jamais on ne peut penser qu'Henri de Jouvenel rêver cette chose, c'est-à-dire d'escroquer son épouse.
Alors, il a beaucoup trompé Colette, Henri Gauthier-Villars, Willy, mais en tout cas, il va quand même lui apprendre quelque chose. Il va lui apprendre, si ce n'est à écrire, au moins qu'elle peut écrire. Et c'est avec elle qu'il va organiser ses fameux ateliers. Écoutez l'histoire du premier manuscrit de Colette, Claudine.
J'ai remis à la maison mère ce que j'avais écrit sur des cahiers, dont d'ailleurs il m'avait fallu retrouver les cahiers les mêmes que j'avais à l'école, parce que sans ça, je crois que je n'aurais jamais pu écrire. Alors j'ai eu les mêmes cahiers, et puis j'ai écrit, et quand j'ai eu fini, j'ai remis ma copie, et M. Willy a pris connaissance des manuscrits, et il a dit tout de suite, ben non. Non, je ne vois pas bien, non, vraiment pas, à quoi ça pourrait servir. Et on a laissé les cahiers là. J'ai trouvé ça très, très juste et très, sans doute très légitimé par la médiocrité des souvenirs que j'avais consignés sur mes cahiers d'école.
Il y a donc eu une redécouverte de Claudine par la suite.
Ah, mais je crois bien. Oh, quelle vieille histoire. Il y a eu... Un an après, M. Willy a rangé son bureau et les tiroirs. Et puis il a retrouvé les cahiers et il a dit, tiens, je ne croyais pas que je les avais laissés là. Et puis il en a repris un, et puis il a repris le second, et puis le troisième, le quatrième, je ne sais plus du tout combien il y en avait pas mal, vous savez. Et... Alors il a eu en effet une réaction que je n'ai pas oubliée. Il a dit, nom de Dieu, je ne suis qu'un con. Et puis il a mis son chapeau à bord plat et il est parti chez Ohlendorf. Et c'est comme ça que je suis devenu écrivain.
C'est la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Colette avec Gérard Bonal. Colette qui était ici interrogée, c'était en 1950, par André Parinaud. Alors est-ce que c'est par hasard, selon vous, que Colette devient écrivain, Gérard Bonal ?
Écoutez, si j'en crois une lettre qu'elle envoie à Rachilde, qui était la femme du directeur du Mercure de France à l'époque, elle avait, dit-elle, un gros tas de notes qu'elle avait prises. Donc le roman n'est pas venu de nulle part. Alors maintenant, est-ce que c'est Willy qui lui a demandé de le mettre en forme ? Est-ce que c'est elle ? Bon, je crois qu'effectivement c'est Willy qui lui a demandé de le mettre en forme. Et je crois aussi que, contrairement à ce qu'elle a toujours dit, Willy a mis la main dans le manuscrit. D'ailleurs, il a rajouté des grivoiseries, ça se voit très bien. Mais il a joué un rôle, d'ailleurs elle le reconnaît elle-même parfois, de rédacteur en chef, c'est-à-dire qu'il a élagué, il y avait beaucoup trop de pages. Les gens qui ont vu le manuscrit et qui ont témoigné disent qu'effectivement c'était énorme au départ.
Parce que ce manuscrit, on l'a encore ?
Non, on n'a plus. Le manuscrit de Claudine à l'école a disparu, il ressortira peut-être un jour. Des gens qui l'avaient vu, mais... C'est un témoignage de troisième main. Des gens qui l'avaient vu disaient que on voyait l'écriture de Colette, cahiers d'écolier, effectivement, c'est vrai. On voyait l'écriture de Colette et à côté, dans la marge ou sur le texte, des corrections à l'encre violette de la main de Willy. On reconnaît son écriture, petite écriture très, très fine, où il précisé, mal dit, arrangé, enfin, il fait un rôle presque d'instituteur, disons plutôt de rédacteur en chef. Mais ça, on ne réglera jamais ce problème de savoir qui est l'auteur des Claudine, oui. Certainement moins que Colette ne le dit, et certainement plus que Willy ne le dit, vous voyez.
En tout cas, c'est ce que dit Claude Pichois, qui
a
préfacé les œuvres de Colette dans La Pléiade. Alors, ce premier livre, Colette à l'école, il paraît en 1900, et elle-même, Colette, dira plus tard, justement, dans Mes apprentissages, dont on parlait tout à l'heure, qu'elle ne le trouvait pas très bon. C'est votre avis aussi ? Est-ce qu'elle est déjà écrivain, selon vous, quand elle publie Colette à l'école ?
Moi, je ne suis pas vraiment de son avis. Moi, je trouve que c'est le meilleur de la série des Claudine. Vous voyez, il y en a quatre. Je trouve que c'est le plus naturel, le plus... Et puis, avec la création d'un personnage vraiment extraordinaire en 1900, on est dans une littérature un peu glauque, si j'ose dire, Catulle Mendès, une littérature, j'allais dire vieillotte, non, glauque, disons. Là, c'est un grand courant d'air qui arrive dans la littérature française.
C'est le premier personnage moderne ?
Premier personnage moderne. Et d'ailleurs, Rachilde, dont je vous parlais à l'instant, va dire que c'est que au seuil du siècle, Claudine est campée, que c'est une femme et qui crée sa féminité et tout ça. Ce que jusque-là, effectivement, on n'avait pas vu.
Ouais. Et puis on retrouve toujours cette volonté, je dis toujours, mais je devrais plutôt dire déjà, d'en découdre. Et là, en l'occurrence, d'en découdre avec les malveillants de Saint-Sauveur empuisés dont vous parliez tout à l'heure, Gérard Bonnard.
Exactement. Parce que, soi-disant, le livre est censé se passer à... Montigny, oui. J'ai cru que je ne trouverais pas le nom. Montigny. Et en fait, tout le monde reconnaît Saint-Sauveur empuisé et tout le monde reconnaît son voisin. Et lorsqu'il a fini de reconnaître le voisin, il se reconnaît lui. Et ça crée un scandale épouvantable dans le village. Et en fait, ce livre, quelque part, c'est un brûlot, une vengeance. La famille Colette a été traînée dans la boue, en quelque sorte, à Saint-Sauveur-en-Puisaye. D'abord, au début, parce que lui était toulonnais, elle était belge, les parents. Mmh. Ensuite, ils ont entretenu une relation alors que Sido était encore marié, mais avec son premier mari qui était un ivrogne invétéré. Et puis ensuite, ils ont été ruinés. Et donc, tout ça a provoqué, vous vous en doutez, des clabaudages, des commérages. Et là, c'est la vengeance.
Alors, dans la série des Claudine, il y a aussi Claudine s'en va, dont je vous propose d'écouter tout de suite un extrait lu par l'auteur. Non pas lu par l'auteur, mais par Odette Joyeux. Voilà, encore fallait-il le préciser. Claudine s'en va.
Il est parti, il est parti. Je le répète, je l'écris pour savoir que cela est vrai, pour savoir si cela me fera mal. Tant qu'il était là, je ne sentais pas qu'il partirait. Il s'agitait avec précision. Il donnait des ordres nets. Il me disait « Annie, vous n'oublierez pas ?» Puis s'interrompant « Mon Dieu, quelle pauvre figure vous me faites. J'ai plus de chagrin de votre chagrin que de mon départ. » Est-ce que je lui faisais une si pauvre figure ? Je n'avais pas de peine puisqu'il était encore là. À l'entendre me plaindre ainsi, je frissonnais, repliée et craintive. Je me demandais, est-ce que vraiment je vais avoir autant de chagrin qu'il le dit ? Mais c'est terrible ! À présent, c'est la vérité. Il est parti. Je crains de bouger, de respirer, de vivre. Un mari ne devrait pas quitter sa femme quand c'est ce mari-là et cette femme-là.
La compagnie des auteurs sur France Culture avec cet extrait de Claudine s'en va. Quittons un peu la littérature, Gérard Bonnal, puisque Colette a tellement eu de métiers qu'il nous faut parler à présent du deuxième métier de Colette qui est le musical. Comment y arrive-t-elle ?
Comment y arrive-t-elle ? Mais apparemment, elle en a envie depuis longtemps. Et elle dit que Willy s'y opposait, que son mari, il fallait... Donc, elle va saisir l'opportunité, en quelque sorte, du mariage, du divorce plutôt, enfin, la conséquence du mariage, le divorce, en 1905, pour commencer à apprendre ce métier de mime avec Georges Vague, qui est une sorte d'élève, non pas une sorte, était l'élève de Debureau, le grand mime, qui a remis le mime... Il l'a modernisé et mis à l'époque. Et elle va donc commencer ce métier de mime.
Est-ce qu'elle est bonne à ça ?
Je ne l'ai jamais vue. Je ne peux pas vous dire.
Vous avez l'air de penser que pas tellement, qu'elle n'était pas très très bonne. Mais vous ne voulez pas le dire, vous aimez trop Colette, c'est ça ?
Non, non, mais je peux le dire. Nous avons des témoignages de gens de l'époque qui disent qu'elle était formidable et d'autres qui disent qu'elle n'avait aucun talent et qu'elle ne savait pas. Cela dit, c'est difficile aujourd'hui de juger le mime. C'est un art qui a quasi complètement disparu. C'est un art sans parole où on doit tout exprimer avec les gestes, les expressions. Et donc tout ça est très outré. Ça fait, c'est un peu cinéma muet, quoi, finalement. Comment savoir si elle avait du talent ? En tous les cas, elle attirait le public, hein, ça marchait bien. Pendant longtemps, comme elle a continué à écrire parallèlement, 1908, L'Évrier de la Vigne, La Vagabonde, 1910, eh bien, on ne sait pas très bien si le public qui venait était attiré par l'actrice ou par l'écrivain.
Oh, peut-être par l'actrice, quand les gens allaient voir la chair où elle montrait son sein. Alors, un seul sein, quand même.
Une fois ou deux, elle en a montré deux.
Ah, si d'accord.
À Nice, notamment.
Il y avait de l'exhibitionnisme chez Colette ?
Je crois pas, mais elle était très factuelle. Hein. Elle savait que ça marchait, que ça attirait le public, donc...
Alors, il faut dire qu'à cette période où elle a donc quitté Willy, elle va découvrir l'amour homosexuel auprès de Missy. Donc, Missy pour Mathilde de Morny, une aristocrate lesbienne.
Fille du duc de Morny.
Elle, voilà, fille du duc de Morny.
Lui-même demi-frère de Napoléon III.
Alors, ça va pas durer très longtemps, quelques années quand même.
Oui, six ans. Oui, 5-6 ans. Enfin, disons que ça commence courant 1905 et que ça se termine en 1911. Voilà.
Alors, ce ne sera pas toujours très agréable avec Missy qui achète une maison pour Colette et Colette ne la lui rendra jamais.
Non, effectivement. Vous savez, c'est une histoire. Effectivement, quand Missy était toujours habillée en homme, hein, il faut le savoir. Scandale à l'époque. Quand Missy a voulu acheter cette maison à Rosven, près de Saint-Malo, près de Saint-Coulon, la propriétaire n'a pas voulu vendre sa maison à une femme qui s'habille en homme. C'est donc Colette qui a servi de prête-nom. C'était vendu au nom de Colette, mais c'est Missy, bien sûr, qui a payé. Et lorsqu'elles se sont séparées, 2 ans plus tard, Colette a gardé la maison. Bon, Missy la lui a donnée, en quelque sorte. C'est un gentilhomme, Missy, si j'ose dire. C'est quelqu'un de très, très généreux. D'ailleurs, elle finira ruinée. Hein. Cette gentillesse, cette générosité lui coûtera cher.
C'est l'époque aussi où Colette est journaliste au Matin.
Oui.
Et c'est au Matin qu'elle va rencontrer celui qui deviendra son second mari, Henri de Jouvenel.
Voilà. Et c'est d'ailleurs à cause de lui qu'elle va se séparer de Missy, puisqu'elle va entamer une liaison avec Henri de Jouvenel, qu'elle va épouser en 1913. Et elle aura une petite fille qui va naître en 1913, précisément. Pardon. Elle l'épouse.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Gérard Bonal, en face de vous se trouve assis Lakis Progidis. Il est le directeur de la revue L'Atelier du Roman et c'est avec lui que nous commençons cette nouvelle année dans compagnie des revues. Bonjour Lakis.
Bonjour.
Alors racontez-nous un peu cette revue que nous connaissons bien évidemment, mais que vous n'avez jamais eu l'occasion de nous présenter dans cette émission, L'Atelier du Roman.
C'est une revue fondée en 1993. 88 numéros parus, c'est une revue trimestrielle, une revue littéraire consacrée au dialogue esthétique autour de l'art du roman. Voilà, c'est sa définition.
Par des écrivains.
Et elle est écrite surtout par les écrivains, par les romanciers. Au début, nous étions 3-4 personnes, maintenant il y a 550 écrivains du monde entier. Et c'est une... vraie revue cosmopolite. Ce sont des francophones, la plupart des temps ce sont des francophones, mais de pays pas historiquement francophones. C'est-à-dire ce sont des écrivains qui écrivent
du monde entier,
français.
Mais qui écrivent
oui,
en français.
Oui, du monde entier, oui. Des japonais, par exemple, ou de l'Amérique latine. Ce sont des écrivains qui aiment le français, qui ont choisi le français pour une deuxième langue ou pour une première parfois.
Et alors, vous vous définissez comme un café littéraire. Est-ce que vous suivez l'actualité de ce qu'il sort, de ce qui sort ?
Écoutez, un café littéraire, obligatoirement, nous sommes au courant de l'actualité, mais ce n'est pas notre priorité. Je vais vous expliquer en deux mots pourquoi. Parce que c'est bien de parler du Goncourt qui est décerné cette année ou l'année précédente, mais nous préférons de parler de Dickens. Parce que si nous ne parlons pas de Dickens, comment on va juger ce qui vient de pousser devant nos yeux? C'est-à-dire, il faut créer des critères, il faut garder en mémoire, toujours vivant, les grands romanciers du passé pour évaluer le présent.
Et alors, vous dites que vous avez plusieurs composantes principales dans votre revue. Le cosmopolitisme, vous l'avez évoqué. Pourquoi est-ce si important pour vous? On entend à votre accent, évidemment, pourquoi, un peu.
Écoutez, il y a, disons, une raison d'ordre, j'ose dire, politique. C'est-à-dire, il y a une confusion totale entre mondialisation et cosmopolitisme. Et l'art est toujours cosmopolite. Depuis Homère, et l'art est cosmopolite. C'est-à-dire, chacun entre avec son identité culturelle. Le portugais, grand écrivain et poète, Miguel Torga, disait que l'universel est le local sans le mur. Donc, vous voyez, c'est pour nous opposer justement à cette uniformisation culturelle du monde, pour prévaloir toutes les identités, mais en dialogue, en dialoguant.
Et avec de l'humour, c'est important pour
surtout,
vous.
Surtout. Notre ami Jean-Jacques Sampé illustre la revue dans tous les numéros.
La première page, oui.
Exactement. Donc, c'est une longue amitié d'ailleurs. Et ça continue.
Alors, dans ce numéro de l'Atelier du roman, vous revenez sur cet écrivain italien décédé en 1989, Leonardo Sacchia. Pouvez-vous nous dire un petit peu pourquoi ?
Et comme pour chaque écrivain à qui nous consacrons un numéro, il y a une longue gestation. C'est-à-dire, il y a des amis, il y a des soirées, nous passons ensemble à discuter. Après et
tout,
on voit un moment ou à un autre moment, on voit l'intérêt de tourner autour d'un écrivain, d'approfondir la lecture. Spécialement, ce numéro est piloté par trois collaborateurs de l'Atelier du roman, trois amis qui insistaient d'ailleurs pour faire ce numéro. Et surtout, pour deux raisons principales. Et premièrement, pour réhabiliter l'art, disons, engagé. Et s'il y a un écrivain de ce siècle qui a pris le monde politique ou le monde de son époque comme matière de son œuvre, c'est bien Sacha.
Engagé contre la corruption, en l'occurrence.
Par exemple. Mais en même temps, on voit où est, disons, l'engagement bête et où commence l'art. Et là, le grand artiste n'a pas peur de se mêler de ce qui se passe autour de lui. Mais c'est l'art qui transforme l'engagement. Et il donne l'aspect universel. Donc oui, notre titre c'est « Le romancier partant de corruption ». Et cette corruption, il ne faut pas la voir comme circonstanciée dans l'Italie du moment. Hein. C'est du monde entier.
Merci Lakis Proghidis. Si l'on souhaite se procurer l'Atelier du roman, comment fait-on ?
Mais c'est en librairie. Il y a aussi, on peut consulter notre site. Et c'est par abonnement aussi, donc oui, c'est une revue qui existe, on peut la trouver partout.
Et très facilement, merci encore.
Merci à vous.
Compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture, et nous sommes avec Gérard Bonal pour parler de la vie de Colette, écrivain sur qui nous nous penchons toute la semaine. Alors Gérard Bonal, Avant la chronique de Lakis Proguidis, nous avons laissé Colette avec Henri de Jouvenel, pseudonyme Sidi. Pourquoi Sidi, oui. Ça vient d'où ce pseudonyme?
Mais on ne sait pas.
Ce surnom?
On ne sait pas. On ne sait pas.
Pas confondre avec Sido.
Oui, bah, Sido, Sidi, effectivement, c'est une succession de si. On ne sait pas très bien. On ne sait même pas si avant Colette, il était surnommé Sidi, effectivement. Alors peut-être parce qu'il avait un teint de méridional, un nez un peu busqué. Peut-être qu'on a, on lui trouvait un air un peu maghrébin. Je ne sais pas. On ne sait pas très bien. Alors, ce qu'on sait, c'est que Colette l'a aussi surnommée la sultane.
Voyez. Oui.
Et Willy, c'était Kiki la doucette. Il y avait toujours chez elle une sorte de manipulation du genre, déjà.
Ah, nous en parlerons en particulier avec Julia Kristeva.
Voilà, exactement.
Jeudi prochain. Mais alors, elle l'aimait passionnément, évidemment.
Elle a aimé passionnément.
Sidi, ouais. Et elle a été jusqu'à le soutenir. En 1914, alors qu'il est sous les drapeaux, elle va risquer sa vie pour lui.
Risquer sa vie, je ne sais pas, mais en tous les cas, elle franchit toutes les interdictions, puisqu'il est formellement interdit aux épouses, maîtresses ou amies d'aller sur le front pour retrouver leur chérie, si j'ose dire. Eh bien, Colette va faire ce voyage dans des conditions épouvantables, 13 heures de train, la nuit, alors qu'il y a des bombardements, alors que on entend le son du canon, précisément. Et elle va à Verdun. Et elle va y aller trois fois. Elle va y aller en décembre 14, elle y retournera, je crois, au mois de mai, et elle y retournera au mois de juillet, jusqu'à ce que elle soit découverte, en quelque sorte, et que elle soit remise dans le train manu militari par la police, en fait.
Oui. Tout pour se rassurer dans la chaleur de Sidi, dites-vous.
Oui, oui, parce que je sais que, enfin, je sais, je suis, je sais pas, mais je tout dit que c'est une passion très sensuelle, très charnelle, très. Et que lorsqu'il n'y aura plus cette passion charnelle, le couple va peu à peu se déliter. Mmh. Il y a ça, d'ailleurs, les lettres de Colette sont très, à ses amis, eux, sont très claires là-dessus. C'est vraiment, il y a cette passion, cet amour sensuel, cette entente formidable entre deux.
Et puis il y a, dans le délitement à venir aussi, le fait que Sidi est un homme politique, alors oui, que Colette n'aime pas la politique.
Oui, et surtout, disons que c'est un homme frivole. Lui aussi, décidément, est abonné aux hommes frivoles. Et une fois la guerre terminée, donc 18-19, le mauvais état du ménage va apparaître. Jusque-là, ça a marché de manière... le ménage boitait un peu, mais ça marchait. La paix revenue va mettre au grand jour les failles dans le couple. Quoi.
Voilà. Alors, il faut dire quand même que pendant la guerre, elle n'est pas toujours sur le front, puisque vous l'avez dit, elle se fait découvrir. Et elle constitue une sorte de phalanstère, pourrait-on dire,
oui.
Dans le 16e arrondissement.
Voilà, alors en 1914, au moment de la déclaration de guerre, elle va se retrouver comme la plupart des femmes françaises, qui à l'époque ne travaillent pas, hein, c'est le mari qui travaille, vont se retrouver très démunies, sans argent. L'homme est parti au front et la femme reste là. Et donc, à plusieurs, la comédienne Marguerite Moreno, qui sera toujours sa meilleure amie, Musidora, star du cinéma muet.
Alors, vous publiez d'ailleurs, disons-le au passage, les lettres de Colette à Musidora,
oui.
Sous le titre Un bien grand amour. Enfin, vous avez publié, hein, c'était déjà en 2014,
oui.
Et c'était aux éditions de Lerne.
Voilà, exactement. Donc, il y a eu une grande amitié entre Musidora et Colette. Donc, Musidora, également Annie Le Pen, dont plus personne ne sait aujourd'hui qui elle était, mais qui à cette parce qu'elle est morte de la grippe espagnole, comme beaucoup de gens en 1918, mais qui à cette époque-là était une journaliste très importante, compagne de Gustave Théry, du journal L'Œuvre. Et six femmes, un peu démunies, se réunissaient maigre bien ensemble pour se nourrir, mais habiter quand même chacune chez elles. Elles habitaient toutes dans le même coin. Donc c'était. Mais effectivement, Colette parle du phalanstère à ce moment-là. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, de la déclaration de guerre, donc le mois d'août, jusqu'à octobre à peu près. Pas
mais
plus.
Au fond, ce que vous nous dites, Gérard Bonnal, et c'est toujours un peu cela dans la vie de Colette, c'est que l'amour et l'amitié prennent énormément de place, oui. Dans son quotidien. On pourrait faire aujourd'hui quasiment une biographie uniquement par ses amis et par ses amours. Et là, on est obligé de parler du fils de Henri de Jouvenel, Bertrand de Jouvenel, qui va être, au même titre que son père, un grand amour, on peut le dire, de Colette, alors qu'il était, quand ils se sont rencontrés, si l'on peut dire, extrêmement jeune.
Oui, parce que Colette ne l'a connu qu'en 1920, son beau-fils. Henri de Jouvenel, avant d'épouser
Colette... Il avait quoi, 17 ans à peu près?
Oui, là, il était né en 1903. Henri de Jouvenel, avant d'épouser Colette, avait eu deux enfants, Bertrand, d'un premier mariage, en 1903, et Renaud, en 1908. Et ce Bertrand, Colette ne l'avait jamais vu. Elle l'a découvert en 1920, dans la maison bretonne que lui avait donnée Missy et qu'elle avait gardée, où il est venu passer un été avec son père. Et puis son père est parti, et c'est là...
qu'elle fait son éducation.
Paris, et c'est là qu'elle a fait son éducation, en quelque sorte.
De manière totalement altruiste, évidemment. Oui, oui. Mais ça va devenir un réel amour et partagé.
Un réel amour et partagé. Et c'est le thème du roman Le blé en herbe. Dans Le blé en herbe, Phil, c'est Bertrand de Jouvenel. En fait, on cherche toujours chez Colette des traces et des origines des romans. Bien, la voilà.
L'origine. Et non pas Chérie, comme on pourrait le croire.
Non, Chérie est avant. Chérie date.
Même si c'est prémonitoire, parce que ça raconte l'histoire d'une femme un peu âgée déjà avec un jeune homme.
Mais c'est prémonitoire. En fait, ça veut dire que dans l'inconscient ou dans le conscient de Colette, ce goût. Julia Kristeva parle d'inceste. D'inceste, voilà, c'est ça. Chercher le mot d'inceste, c'est quelque chose. Oui, peut-être c'est ça. Là, disons que c'est Phèdre qui va. Avec Bertrand Jouvenel, elle a joué Phèdre à domicile, quoi, en fait.
Et puis, en 1939, c'est évidemment la guerre.
Le 12 juin, j'étais à la campagne près de Montfort.
À Méry ?
Oui. À cause de l'avance des forces allemandes, j'ai voulu rentrer à Paris.
Vous deviez être à peu près la seule.
Non, mais enfin, c'était une idée fixe. Seulement, les routes étaient barrées, alors je me suis rendue avec mon mari chez ma fille.
Où ça?
En Corrèze.
C'est donc là que se situe la première partie de votre livre.
Exactement.
Étiez-vous contente, vous, la campagnarde, de retrouver la campagne?
Contente, oui. J'étais contente de voir ma fille, qui m'appelait depuis un mois. Mais je n'étais pas contente d'être loin, je ne voulais que Paris.
Ah, toujours.
Oh, je ne réclamais que Paris, j'ai conscience d'avoir été, à tous ceux qui étaient avec moi, d'avoir été parfaitement insupportable.
Paris, quand les gens se félicitaient d'être à peu près à l'abri, comment expliquez-vous ça?
Mais je ne l'explique pas, c'est un peu difficile. J'aime me trouver à la source de ce qui se passe, à la source de toutes les nouvelles qu'on pouvait avoir.
Et non pas à l'écart.
Oui, justement. Pendant l'autre guerre, on n'a jamais pu m'écarter de Paris. La Corrèze était magnifique l'année dernière, mais je ne fais pas beaucoup de cas de la sécurité matérielle. C'est un des travers de mon caractère, voilà tout.
Et depuis quand avez-vous recouvré votre bonne humeur?
Oh, depuis mon retour à Paris, dans les premiers jours de septembre. Je suis charmante, je travaille comme je peux, autant que je peux, et je ne demande rien à personne.
Une archive enregistrée en pleine guerre, le 18 avril 1941, donc un an à peu près après les événements qu'elle raconte. Et pourtant, elle déclare qu'elle est de très bonne humeur, et ça s'entend d'ailleurs.
Oui, ça s'entend. Oui, elle est de très bonne humeur. Elle est sans doute de très bonne humeur. Elle est revenue à Paris, même si elle commence déjà à ressentir les attaques de cette arthrite qui peu à peu va l'immobiliser. Oui. Je voudrais juste faire un petit retour en arrière, parce qu'après on ne pourra plus en parler, je voudrais parler de sa maison. Elle est née à Saint-Sauveur, elle est dans une très belle maison, qui, par les jeux d'héritage et de la ruine, lui avait échappé, qu'un soyeux lyonnais a racheté en 1925, et dont il lui a fait cadeau, dont elle a eu l'usufruit jusqu'à la fin de sa vie, et qu'elle a vendu à ce moment-là. Et l'association La Maison de Colette a racheté...
Dont vous faites partie.
Dont je fais partie, j'en suis le vice-président, a racheté cette maison aux héritiers des propriétaires qui l'avaient achetée en 1950. Et c'est là qu'elle vient de rouvrir au public. Et tous les amoureux de Colette sont bouleversés quand ils découvrent... ils retrouvent tout ce qui est décrit dans Sido ou dans la maison de Claudine.
Voilà. Et s'ils ont de la chance, ils peuvent vous trouver comme guide, comme le week-end dernier.
Ce week-end, j'étais effectivement guide dans la maison, mais ça m'arrive souvent.
Alors, c'est donc à Paris qu'elle passe la guerre, hein, puisqu'elle ne supporte pas d'être ailleurs que dans la capitale. On lui a reproché un petit peu sa participation au Petit Parisien. On lui a reproché 3 ou 4 articles qu'elle a confiés à Comédia, des organes de presse suspectés de collaboration ou collaborationnistes.
Écoutez, moi je pense qu'elle n'a absolument rien à se reprocher par son attitude pendant l'occupation. Elle était journaliste au Petit Parisien, effectivement. Elle y tenait une rubrique tout à fait bénigne, c'est-à-dire des conseils. C'était un peu l'autorité. Moi qui ai connu la Première Guerre mondiale, moi qui suis vieille, je peux vous dire, jeune femme, comment passer les mauvais moments, comment pallier à l'absence de nourriture, à l'absence de chauffage.
Oui, c'est très pratique.
C'est ça, très pratique. Et puis à partir du moment où le Petit Parisien est passé quasi sous contrôle allemand, ce qui a été, elle s'est arrêtée. Elle n'a plus du tout collaboré. Entre-temps, il y a eu l'arrestation de son mari.
Voilà, qui était juif. Alors un nouveau mari dont on n'a pas parlé, décidément.
Non, on
celui-là
pas eu temps
de... plus jeune, hein, plus 15 jeune, ans de 15 moins qu'elle. De moins qu'elle, pas autant que Bertrand Jouvenel, mais enfin, à peu près.
Maurice Goutquet. Maurice Goutquet, qu'elle a épousé en 1935, mais qu'elle connaissait depuis 10 ans déjà. Maurice Goutquet, donc, qui était juif, et qui a fait partie de cette rafle des notables de décembre 1941. Une des premières grandes rafles dans laquelle il y a eu aussi Jean-Jacques Bernard, le fils de Tristan, et René Blum, le fils de Léon Blum aussi. Grâce à sa femme, il n'a pas été déporté, mais il s'en est fallu de peu, effectivement. Oui. Colette, qui était à l'époque une personne célébrissime, a remué ciel et terre. On trouve parmi les gens qui l'ont aidé aussi bien Sacha Guitry que le directeur de Karl Epsing, le directeur de l'Institut allemand. Donc, comme son mari l'a dit après, elle a frappé à toutes les portes. Et finalement, elle a réussi à l'arracher au convoi qui allait l'emmener à Auschwitz.
Et puis, après
et donc,
guerre,
pardon, oui, pardon. Et à partir de ce moment, effectivement, elle ne collabore plus à rien. Elle ne veut plus attirer l'attention sur elle et sur son mari.
Après-guerre, elle est déjà une femme célèbre, hein, vous venez de le dire.
Elle l'est depuis longtemps même.
Au fond, sa notoriété va continuer jusqu'à la consécration que va être... Alors, il y a plusieurs consécrations, mais l'une d'entre elles, c'est l'entrée à l'Académie Goncourt, oui, dont elle va devenir présidente.
Aujourd'hui, ça nous semble bien peu de chance, bien peu de choses d'entrer à l'Académie Goncourt par rapport à son génie, je peux le dire. Oui, oui, effectivement.
Elle mais disons que de Mauriac au communiste, elle fait elle a une forme d'unanimité.
Aragon dit le plus grand écrivain français, c'est Colette. Il y a un article dans les lettres françaises qui sous ce titre sur elle. Mauriac adore tout le monde. Je veux dire. Et même encore aujourd'hui, je tiens à le dire, je n'ai pas rencontré un écrivain, ce que j'appelle un vrai écrivain, qui n'aime pas Colette.
Ouais.
Tous les écrivains qui savent ce que c'est que d'écrire sont en admiration devant cette prose, devant cette manière de faire les choses, de écrire les romans, quoi, en fait. Voilà. Alors, à partir de 1945, eh bien, il y a une espèce de folie, je veux dire, qui s'empare du monde littéraire, tout ça orchestré par Maurice Goutquet, hein, il faut bien le savoir. C'est-à-dire que, à ce moment-là, physiquement, elle ne peut plus guère se déplacer.
Parce qu'elle devient de plus en plus impotente, en fait. Elle ne peut plus sortir de sa chambre.
Elle terminera sa vie, d'ailleurs, elle le dit dans des lettres, elle ne peut même pas aller de son lit à la salle à manger. Oui. Voyez,
on ne sait jamais si c'est ironique, si
non,
elle en rajoute.
Ça, c'est vrai parce que c'est dans des lettres intimes à des gens très proches, à sa fille, par exemple, ou des choses comme ça. Mais, pendant ce temps-là, dans Paris, il y a une sorte de célébration, de cérémonie perpétuelle de Colette. Par exemple, la générale de Chéri, la pièce est reprise avec Jean Marais dans le rôle titre, Valentine Tessier. C'est un événement parisien. La sortie du blé en herbe, 1954, film de Claude Autant-Lara, c'est un événement parisien. Chaque fois, il y a dans le public toute l'Académie Goncourt au garde à vous. Bien souvent, un président de la République qui se déplace, ou un ministre. Colette est devenue une sorte d'icône républicaine. C'est ça, icône républicaine, une espèce de Madone laïque, si vous préférez.
et elle meurt en août 1954.
Et moi, je pense 81 ans. Je pense que ce statut d'icône qu'elle a eu pendant ces dernières années a peut-être un peu nui à sa réputation ensuite. Bon, d'abord, il y a eu le nouveau roman, comme toujours, il y a un purgatoire pour les écrivains qui viennent de mourir, mais elle a trop été considérée comme une gentille dame qui parlait des animaux, des chats, des chiens, alors que sa littérature est explosive, en fait.
Et quelqu'un comme Sagan, qui ne parlait pas que des animaux, des chats et des chiens, même si elle en parlait aussi, a été apporté, Bonjour Tristesse, paru en 1954, avec une dédicace, je ne sais pas si vous vous en souvenez par cœur.
Oui, à Madame Colette, en espérant que mon livre lui apportera le millième du plaisir que les siens m'ont apporté. Enfin, c'est quelque chose comme ça, voyez. Mais il n'y a pas qu'elle, Simone de Beauvoir est béate d'admiration devant la prose de Colette. Enfin, et ses thèmes. Et d'ailleurs, un roman comme L'invité de Beauvoir est directement inspiré de La seconde de Colette. Hein. C'est le même jeu entre les partenaires.
Et pourtant, le féminisme de Beauvoir n'est pas
celui de Colette.
N'est pas celui de Colette, si tant est qu'il y ait un féminisme de Colette. C'est un sujet que nous aborderons sans doute. Avec Julia Kristeva, ce sera jeudi prochain. Merci beaucoup, Gérard Bonal.
Merci à vous.
Je rappelle que votre biographie de Colette s'intitule « Je veux faire ce que je veux » et qu'elle est disponible chez Perrin depuis 2014. Demain, votre comparse Frédéric Magé sera dans ce studio. C'est avec lui que vous avez édité les Cahiers de Lerne Colette et nous parlerons des visions de la vie de Colette avec lui. Mais tout de suite, à 15h55 sur France Culture, c'est le moment de retrouver la poésie avec Jacques Bonafé.
Bonjour. Envie ces jours-ci de replonger dans la fureur, splendeur des mots, dans toute la poésie de la négritude. Envie de revenir à Guy Tyrolien, qu'injustement je n'avais pas cité en septembre à la rentrée, le poème « Prière d'un petit enfant noir ». Non, je l'avais attribué à Birago. Alors là, n'importe quoi. Envie de se souvenir, pour avancer, d'aller au tout premier. Léon Gontran, Damas, celui qui me fut livré aux fauves, disait de lui Guy Tyrolien. « Cesse !» Où je raccroche, je ne joue plus, je dis tout, et je dis. Ce n'était pas lui, ce n'était pas celle qui seule eût pu vous parler de lui. Ce n'était pas elle, ce n'était pas lui, ce n'était que moi, à l'autre bout du monde, au bout de l'appel, tout au bout du fil, au bout de l'angoisse, au bout de l'attente, à bout de désir. Cesse où je raccroche, je ne joue plus, je dis tout, et je dis mon dernier rêve. La nuit dernière, au beau mi-temps du ciel, des îles, un soleil rouge de feu rouge à brûler vif, des torses et torses et torses et torses nus, des bacouas en bataille sans les chapeaux que portaient les coupeurs de canne à sucre, des bacouas en bataille, des pantalons aux trois quarts retroussés, des coutelas flambant neufs au lieu de belles cannes, coupaient des théories de tête blonde comme la vôtre, mon bel amour. Cesse ou je raccroche, je ne joue plus à vous, je dis tout et je dis, je ne sais si tu sais que tu m'aimes, si tu sais que je sais que je t'aime. Cette langue, c'est la parole et l'écriture de Léon Gontran Damas. En 1937, il publie Pigment. Extrait du long poème Black Label, t'en souvient-il, Bamayedo Brasil. Bamaye do Brasil, montrant la voie aux gueux, montrant la voie aux peu, montrant la voie aux rien, montrant la voie aux chiens, montrant la voie aux maigres, montrant la voie aux nègres, nous, les gueux, nous les peu, nous les rien, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres, nous à qui n'appartient guère plus même cette odeur blême des tristes jours anciens, nous les gueux, nous les peu, nous les rien, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous, les gueux, les peu, les rien, les chiens, les maigres, les nègres, pour jouer au fou, pisser un coup, tout à l'envie, contre la vie stupide et bête qui nous est faite à nous les gueux, à nous les peu, à nous les riens, à nous les chiens, à nous les maigres, à nous les nègres. T'en souvient-il, Paris, nombril du monde, à la merci de l'Afrique, à la merci de sa voix, à la merci de la fièvre, du rythme, de la piste, un mouchoir de poche, de l'invitation au voyage au mur, de la trompette bouchée. T'en souvient-il, le blanc à l'école du nègre, tout à la fois gentil, docile, soumis et singe. Jamais le blanc ne sera nègre, car la beauté est nègre, et nègre la sagesse, car l'endurance est nègre, et nègre le courage, car la patience est nègre, et nègre l'ironie, car le charme est nègre, et nègre la magie, car l'amour est nègre, et nègre le déhanchement, car la danse est nègre, et nègre le rythme, car l'art est nègre, et nègre le mouvement, car le rire est nègre, car la joie est nègre, car la paix est nègre, car la vie est nègre.
Jacques Bonnafé sur France Culture. Bientôt 16h, dans un instant, vous retrouvez Nicolas Martin et la méthode scientifique. Très bon après-midi à toutes et à tous.